pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi Lolita de Nabokov cette semaine. Préparez-vous, c'est court. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Tout un programme, on a rarement lu un incipit qui annonce à ce point la teneur du roman. Lolita, donc de Nabokov, publié en 1955. Des romans et éventuellement d'autres chefs-d'œuvre, nous en lirons plein d'autres avec les libraires de l'émission tout à l'heure. Et puis Victor Dolande sera là lui aussi avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. Et alors là, c'est un événement cette semaine, les amis. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
Patricia Cornwell s'est fait connaître avec son héroïne fétiche Kay Scarpetta, une médecin légiste particulièrement sagace qui résout les crimes grâce à son intelligence et ses connaissances médicales. Patricia Cornwell a publié 24 de ses aventures et vendu au passage plus de 150 millions de livres dans le monde. Elle revient cette semaine chez son éditeur Lattès avec une nouvelle série, une nouvelle héroïne, Callie Chase. Le roman s'appelle Quantum. Il devait sortir en mars, mais je ne vous fais pas un dessin. Il a été repoussé cette semaine, juste avant le confinement. Mais alors vraiment juste avant, j'étais parti aux États-Unis, à Boston, pour la rencontrer. Bonjour Patricia Cornwell.
Bonjour.
Votre nouveau roman s'appelle Quantum. Chez Jean-Claude Lattès, on n'y retrouve pas Kay Scarpetta, votre héroïne mythique, mais Callie Chase, elle est policière, mais pas seulement. C'est aussi une crack en technologie. Elle travaille pour la NASA. Et le roman commence dans une situation très désagréable puisqu'on est dans un tunnel. Callie est suivie par une collègue dans ce tunnel, une collègue qui est claustrophobe. Et est-ce que c'est ça la clé au fond d'un roman réussi, une situation de départ un peu folle.
Je pense que pour moi, la manière de commencer un bon roman, c'est de le commencer au milieu d'une action. Quand tout le monde est en train de dire ou faire quelque chose et vous vous dites « Wow, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en opposition au « Il était une fois », vous savez, au début. Donc je m'efforce de commencer quand quelque chose est déjà en train de se passer. Et dans Quantum, c'est cette alarme qui sonne dans ce vieux tunnel sous le centre de la NASA. Et elle sait qu'il y a des capteurs ultra-sensibles, de la fibre optique et des nœuds quantiques pour les ordinateurs quantiques. Et donc elle est inquiète pour ce qui est l'une des menaces les plus inquiétantes de nos jours, c'est-à-dire le piratage informatique.
Alors, je dis point de départ, mais en fait, il y a deux points de départ, puisqu'il y a une autre partie de la narration qui est en italique dans le livre et qui se passe 3 ans plus tôt. Ça aussi, c'est un bon ressort pour se dire, mais où est-ce que je suis en tant que lecteur ?
Vous savez, j'aime bien plonger dans la psychologie des personnages. Et là, il y a deux voyages en même temps. Un voyage dans ce tunnel, mais il y a aussi le voyage à l'intérieur d'elle-même, vous savez. Elle a fait partie de l'Air Force et elle se rappelle des choses qui lui sont arrivées avant qu'elle ne quitte l'armée et d'autres qui lui sont arrivées quand elle était enfant. Un événement qui a eu lieu dans une ferme et qui implique sa sœur jumelle et comment ces choses nous affectent et nous changent.
Mais on sent que vous aimez jouer avec ces trucs-là de la narration, je veux dire avec avec ce système qui permet de capturer le lecteur tout de suite.
Oui, je joue. C'est très bien vu de votre part et j'apprécie que vous l'ayez relevé parce que tout est dans la manière dont vous racontez une histoire. La question, c'est pas de savoir comment j'écris les phrases ou si c'est du présent, du passé ou de quel point de vue. Ce qui compte, c'est que le lecteur ne sache pas ce que vous faites. Il faut rendre l'histoire viscérale. Écrire, c'est comme créer un panneau de verre. Le lecteur ne doit pas savoir ce que je fais derrière. Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas voir ce que j'écris. Mon écriture doit être simplement un véhicule pour vous emmener faire un voyage. Les flashbacks sont une bonne manière d'y parvenir. J'essaye toujours une manière plus facile de raconter une histoire. Et les lecteurs changent. Leur façon de lire aujourd'hui n'est plus la même que quand j'ai commencé. Par exemple, quand je n'ai plus de chapitres de 20 pages maintenant. Je fais des chapitres de 10 pages, je les coupe en deux. Parce que les lecteurs ont une attention plus courte aujourd'hui, et moi aussi, donc j'essaye. Personne n'a envie que la forme commande le fond. Mais la vérité, c'est que les deux marchent ensemble.
Mais à ce sujet, justement, il y a un compte à rebours qui ponctue les chapitres, un compte à rebours de fusée, parce qu'il va y avoir un lancement. Et du coup, ça rajoute aussi une sorte de pression. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui va arriver quand le compteur sera à zéro?
Vous savez, je ne sais jamais comment un roman va finir quand je le commence. Et même à l'époque de Kay Scarpetta, je ne savais pas qui était le tueur jusqu'à ce qu'elle-même le découvre. Et comme ça, on fait « Oh, ensemble !» Ah non, c'est lui. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer quand je commence. Je pense que c'est une bonne chose en un sens, parce que mes propres découvertes de ce qu'il va se passer rejoignent les vôtres, et je ressens la même intensité. Parce que je vais être aussi surprise. Je serai aussi surprise par ma propre histoire, et je me dirai, ah, j'aurais bien voulu penser à ça. Parce que je ne sais pas d'où ça vient, et je suis surprise. Et à la fin de Quantum, je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je ne savais pas quelle serait la fin jusqu'à ce que ce soit fini. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, et maintenant, quoi ? Est-ce qu'il faut que ça continue ? Et je me suis dit, non, ça doit s'arrêter là. Parce que tout ce qui arrivera ensuite, ce sera une histoire complètement différente.
Je ne savais pas ça, parce que la plupart des auteurs de polar, ils savent au moins comment ça va se terminer. Comment ça commence, comment ça se termine. Peut-être parce qu'il y a au milieu, mais ils savent comment ça va se terminer. Vous ne vous faites pas peur parfois quand vous écrivez en vous disant, oh là là, mais où est-ce que je vais avec ce roman ?
Ah si, j'ai peur pendant toute la rédaction. J'ai peur, mais même après toutes ces années, je suis très anxieuse quand j'écris un livre et je ne sais pas où ça va. Vous savez quoi ? Je le commence comme un journaliste. Quand vous êtes journaliste, vous ne savez pas comment votre histoire va finir ou vous ne pouvez pas être un bon reporter. J'essaye de savoir ce qui va se passer et je découvre l'histoire par mes recherches et juste le fait d'y passer du temps. C'est la manière dont la vie fonctionne. Écoutez, regardez, nous sommes assis là dans cette chambre. Si nous savions déjà ce qui va se passer, pourquoi se donner la peine de le faire ? Et donc, je ne veux pas tout savoir avant de le vivre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'intervenez pas et que vous ne pouvez pas faire des réglages. Et donc, je reviens en arrière, je m'assure que tout fonctionne, mais pour moi, c'est comme conduire une Ferrari. L'important, c'est pas de savoir où vous allez. L'important, c'est la balade.
Cali est dans ce tunnel avec sa collègue parce que donc une alarme s'est déclenchée et c'est peut-être une souris, peut-être rien, mais c'est aussi un endroit hyper protégé et donc il faut aller vérifier. Et quand elle arrive sur place, elle trouve du sang et là l'enquête commence, mais comme une bonne vieille enquête à l'ancienne, un whodunit à la Agatha Christie. Et donc on ne sait plus si on est dans un roman policier ou un roman un peu SF. Est-ce que vous vouliez casser le genre en mélangeant un petit peu tout ça ?
En fait, j'essaye de décrire ce qui se passe dans le monde de nos jours, ce qui nous inquiète. Quand j'ai commencé, ce qui était source d'angoisse, c'était le serial killer qui rôde sous votre fenêtre. Aujourd'hui, on a peur que quelqu'un pirate un satellite, que nous n'ayons plus de GPS ou que tout le monde meure dans nos villes pour une raison ou pour une autre. Nous avons des sources d'angoisse plus grandes. Ce ne sont pas les mêmes ennemis. Ce n'est donc pas un whodunit, parce que nous savons qui a fait le coup. Nous savons qui est la mauvaise personne. La question, c'est comment va-t-on la stopper ? Ça crée un nouveau genre de roman, parce que la technologie crée ce que j'appelle un point de vue omniscient à la première personne. Donc l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de nouveau en matière de littérature, c'est de prendre le monde d'aujourd'hui tel qu'il est et de raconter des histoires pour décrire ça et mettre un visage sur ces technologies. Je veux dire, on a des voitures volantes aujourd'hui, on a des jetpacks, on a des fusées, on prévoit de construire des habitats sur la Lune, j'ai vu ça. Et je veux mettre un visage là-dessus. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où des technologies comme celle-là prolifèrent ?
Restez avec nous, on retourne à Boston dans un instant avec Patricia Cornwell.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, on repart immédiatement pour Boston rejoindre Patricia Cornwell et son nouveau roman Quantum chez Lattès, les aventures de la capitaine Cali Chase.
Alors, le badge qui a servi à pénétrer dans les locaux appartenait à quelqu'un qui s'est suicidé. La sœur jumelle de Cali est impliquée peut-être. Et on y va, on court, il faut empêcher une catastrophe. On ne va pas dévoiler toute l'histoire, toute l'intrigue, mais c'est un nouveau roman riche, documenté, dense. Il y a de la technologie, il y a le fonctionnement aussi des institutions. Je veux dire, c'est riche aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on sent que tout est là et tout est vrai, en tout cas dans les fonctionnements. Comment est-ce que vous vous documentez et combien de temps vous consacrez à cette documentation ?
Eh bien, j'ai passé beaucoup de temps à la NASA. J'ai consulté, j'ai beaucoup travaillé avec des astronautes. Et ces gens lisent ce que je fais et j'essaye de travailler aussi avec les services secrets. Ils m'ont emmené sur le terrain et à la Maison-Blanche. Je les ai suivis 3 fois. Je fais mes devoirs, vous savez. Je suis allée au Kennedy Space Center plusieurs fois parce que dans le prochain roman, elle grimpe dans une fusée, donc je devais faire tout ça. Au centre spatial, je suis montée à bord d'un avion zéro gravité où vous êtes en apesanteur. Ouais, j'ai fait ça il y a quelques mois. J'essaye d'essayer tout ce que je peux parce que je veux le faire passer au lecteur. Je veux que vous partiez dans l'espace, que vous ressentiez la même sensation. Et je vais vous le montrer, je vous le promets. Et vous allez passer un bon moment.
Oui, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, Patricia Cornwell a appris l'hélicoptère parce que Lucie, la nièce de Cass Carpetta, sait piloter un hélicoptère. Et donc, vous avez appris l'hélicoptère. Cette fois, vous me dites que vous avez donc appris à être astronaute d'une certaine manière.
En tout cas, j'y travaille. Bien sûr, je ne pourrais pas être une véritable astronaute, mais vous savez, on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'aller dans l'espace jusqu'au moment où on y va pour de vrai. On ne fait que des entraînements pour aller dans l'espace. La première fois que vous êtes en apesanteur, la première fois que vous montez à bord d'une fusée, c'est la première fois que vous le faites vraiment. Moi, j'ai fait, vous savez, beaucoup de choses qu'ils font vraiment. Beaucoup de simulateurs, de la réalité virtuelle. Ils peuvent vous faire marcher comme dans l'espace au centre spatial. Ils peuvent vous le faire faire en réalité virtuelle. Je pourrais jurer que je l'ai vraiment fait maintenant. C'est tellement réel. C'est très étonnant.
Cass Carpetta, c'est votre héroïne iconique que tout le monde connaît. Et vous changez parfois de série. Ce n'est pas la première fois. Il y en a eu d'autres. Mais est-ce que c'est parce qu'elle vous fatigue un peu, Cass Carpetta ? Est-ce que vous avez le syndrome de Conan Doyle avec Sherlock Holmes qui a fini par tuer son personnage parce qu'il en avait marre ?
Je pense que c'est plutôt Cass Carpetta qui aura envie de me tuer parce qu'elle en a sans doute marre de moi maintenant. Je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas la tuer. Et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si j'écrirai sur elle encore, ça il faut voir, mais je ne la tuerai pas. Et je peux vous dire pourquoi, on m'a demandé ça plusieurs fois. Simplement parce qu'il y a des gens partout dans le monde qui tiennent à elle. Elle est réelle pour eux. Et je ne veux pas leur faire ça. Et puis je l'aime aussi. Je veux dire, je vis avec ce personnage depuis 24 livres. Et je l'ai rencontrée pour la première fois en 1984, quand je suis allée la voir à la morgue et qu'elle est sortie de ma tête. Mais je ne suis plus sur la route avec elle. Et puis, d'abord, j'ai arrêté de la faire vieillir depuis qu'elle a eu 50 ans. Et je suis bien plus âgée qu'elle maintenant. Et puis, j'ai envie d'écrire sur des choses différentes. Elle est médecin légiste et j'ai déjà exploré ça. En fait, quand j'ai fini Chaos, la dernière aventure, la seule chose que je peux faire de plus avec elle maintenant, c'est l'envoyer sur la Lune. Mais ça, je pense que c'est pas elle que j'enverrai sur la Lune. Ça pourrait être Kaylee Chase que j'envoie sur la Lune. Là, j'ai un personnage qui peut faire à peu près tout et on verra ce qu'elle fera dans le prochain livre. Mais elle peut tout faire.
And that's fun.
Patricia Cornwell, qui sont vos maîtres en matière de romans policiers? Qui sont vos modèles?
Conan Doyle. Conan Doyle. En fait, j'ai énormément d'admiration pour lui en tant que personne. Humainement, il était remarquable. Il écrirait sur la NASA aujourd'hui. Il s'intéressait à tout. Dickens, c'est extraordinaire. Je pense que c'était le meilleur raconteur d'histoire. C'était une rockstar, imaginez. Il lisait ses livres devant des milliers de personnes, sans micro, interprétait sur scène, interprétait votre propre travail, parce qu'il était acteur aussi. Et en plus de ça, il écrivait des dictionnaires, des encyclopédies sur son temps libre. Agatha Christie, c'était une technicienne, probablement celle qui a mis au point les meilleurs puzzles d'histoire à énigmes. Je pense qu'elle était un génie absolu. Laissez-moi réfléchir. Hemingway, je l'ai étudié. Et en matière de description et de dialogue, personne ne le surpasse. Ses histoires se passent un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas toujours ma tasse de thé, mais sa technique est remarquable. Je peux voir ce qu'il dit. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont extrêmement forts dans ce qu'ils font. Et j'essaye d'apprendre d'eux. Jules Verne, n'est-ce pas? Wow! Et les sujets sur lesquels il écrivait, il était tellement en avance sur son temps. Ça, c'est remarquable. Et c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que je fais. Plus que n'importe quel autre écrivain, vous savez. Explorer ce que les gens ne croient pas réel, mais qui le sont peut-être.
Dernière question. Vous faites la part belle aux femmes dans vos romans. Mais au début, qu'escarpetta, j'imagine que vous n'y avez même pas pensé. Vous avez pris cette femme parce que vous êtes une femme, peut-être, et que vous avez voulu vous identifier en créant un nouveau roman. Mais est-ce que maintenant, vous y pensez? Quand vous créez une héroïne comme Callie Chase, est-ce que vous vous dites, il faut que ce soit encore une femme, parce qu'il faut, appuyer encore ce mouvement?
Non, la raison pour laquelle mes personnages principaux sont des femmes, c'est juste que je pense que je serais meilleure pour écrire dessus en tant que femme. Mais j'ai aussi des personnages masculins puissants, comme Dick Melville, le général Moby, ouais. C'est vraiment quelqu'un. De bien des manières, il est plus important que tous les autres personnages. Et vous parliez du mouvement féministe d'aujourd'hui, mais quand j'ai commencé comme reporter police-justice, j'étais la seule femme. Il n'y avait pas de femmes reporters de faits divers, ce n'était que des hommes. J'étais la seule fille de l'équipe de tennis au lycée, j'ai grandi avec deux frères. J'ai toujours dû me battre et faire ma place. Aujourd'hui, c'est différent. Mais ce que je dirais aujourd'hui, c'est que nous devons faire attention à être respectueux de tout le monde, pas juste un groupe de personnes. Pas seulement les femmes, mais des hommes aussi. Je veux dire, tout le monde. Ma crainte, c'est que nous nous divisions. Et en défendant nos droits, il ne faut pas oublier ce que disait Nietzsche. Attention à l'ennemi que tu choisis, parce que tu risques de lui ressembler. Nous devons veiller à ne pas devenir l'agresseur et finir par faire aux autres ce que nous avions peur qu'ils nous fassent. Je suis plutôt pour embrasser l'humanité de chacun. Et c'est ça, Callie Chase. C'est pas juste le fait d'être une femme. Ça parle des gens.
Merci beaucoup, Patricia Cormier.
Merci beaucoup, enchantée.
Europe 1. Retour au studio d'Europe 1. C'était émouvant quand même de rencontrer Patricia Cornwell, je ne vous cache pas. Dans un instant, toujours des livres, nous allons écouter les premières pages de Courir de Jean Echenoz.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est livre. Il est l'heure d'écouter un livre. Il paraît que tout le monde s'est mis au footing pendant le confinement. Ça tombe bien, le roman de Jean Echenoz, Courir, raconte l'histoire de l'un des plus grands et des plus célèbres coureurs de fond, Émile Zatopek. Moi, je vous le dis, la course, c'est pas ma passion. En revanche, ce livre est incroyable. C'est le livre que j'offre systématiquement. Écoutez le début, lu par Jean Echenoz lui-même.
Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion, mais aussi en calèche, suivis d'unités d'infanterie et de colonnes de ravitaillement, puis de quelques véhicules semi-chenillés de petit format, guère plus. Le temps n'est pas venu de voir de gros panzers, Tiger et Panther, menés par des tankistes en uniforme noir, qui sera une couleur bien pratique pour cacher les taches d'huile. Quelques Messerschmitt monomoteurs de reconnaissance, de type Typhoon, survolent cette opération, mais seulement chargés de s'assurer de haut que tout se passe tranquillement, ils ne sont même pas armés. Ce n'est qu'une petite invasion éclair en douceur, une petite annexion sans faire d'histoire, ce n'est pas encore la guerre à proprement parler, c'est juste que les Allemands arrivent et qu'ils s'installent, c'est tout. Le haut commandement de l'opération se déplace en automobile Horch 901 ou Mercedes 170, dont les vitres arrière, obturées par des rideaux gris finement plissés, ne laisse pas bien distinguer les généraux. Plus exposés, les calèches sont occupées par des officiers moins gradés, à longs manteaux, hautes casquettes et croix de fer serrées sous le menton. Les chevaux sont montés par d'autres officiers ou remorques des cuisines de campagne. Les camions transporteurs de troupes appartiennent au modèle Opel Blitz et les motos, des sidecars lourds Zündapp, sont pilotés par des gendarmes casqués à collier métallique. Tous ces moyens de transport s'ornent d'oriflammes rouges à disque blanc contenant cette croix noire un peu spéciale qu'on ne présente plus et que les officiers arborent aussi sur leurs brassards. Quand tout ce petit monde, il y a 6 mois, s'est présenté dans les Sudètes, il a été plutôt bien reçu par les ressortissants allemands de la région. Mais à présent, passé la frontière de Bohême-Moravie, l'accueil est nettement plus froid, sous le ciel bas et plombé. À Prague, le petit monde est entré dans un silence de pierre et, dans la province morave, les gens ne sont pas non plus massés au bord des routes. Ceux qui s'y sont risqués considèrent ce cortège avec moins de curiosité que de circonspection, sinon de franche antipathie. Mais quelque chose leur dit qu'on ne plaisante pas, que ce n'est pas le moment de le faire voir. Émile n'a pas rejoint ses spectateurs car il a beaucoup d'autres choses à faire. D'abord, ayant quitté depuis 3 ans l'école où sa famille n'avait pas les moyens de le maintenir, il occupe en usine un emploi d'apprenti avec lequel on ne plaisante pas non plus. Puis, quand il sort de l'atelier, il suit des cours de chimie dans l'idée d'être un jour autre chose qu'apprenti. Enfin, quand il a le temps de rentrer chez lui, il donne un coup de main à son père dans le jardin qui n'est pas un jardin d'agrément, qui est l'endroit où l'on doit faire pousser ce qu'on mange, point sur lequel on plaisante encore moins. Émile a 17 ans, c'est un grand garçon blond au visage en triangle, assez beau, assez calme et qui sourit tout le temps, et l'on voit alors ses grandes dents. Ses yeux sont clairs et sa voix au perché, sa peau très blanche et de celle qui redoute le soleil, mais de soleil, aujourd'hui, point. Entrés en Moravie, les Allemands s'y établissent donc et occupent Ostrava, ville de charbon et d'acier près de laquelle Émile est né et où prospèrent des industries dont les plus importantes, Tatra et Bata, proposent toutes deux un moyen d'avancer, la voiture ou la chaussure. Tatra conçoit de très belles automobiles très coûteuses, Bata produit des souliers pas trop mal, pas trop chers. On entre chez l'une ou l'autre quand on cherche du travail. Émile s'est retrouvé à l'usine Bata de Zlin, à 100 km au sud d'Ostrava. Il est interne à l'école professionnelle et petite main dans le département du caoutchouc que tout le monde aime mieux éviter tant il pue. L'atelier où on l'a d'abord placé produit chaque jour 2200 paires de chaussures de tennis à semelles de crêpe et le premier travail d'Émile a consisté à égaliser ses semelles avec une roue dentée. Mais les cadences étaient redoutables, l'air irrespirable, le rythme trop rapide, la moindre imperfection punie par une amende, le plus petit retard décompté sur son déjà maigre salaire, rapidement il n'y est plus arrivé. On l'a donc changé de poste pour l'affecter à la préparation des formes où ce n'est pas moins pénible, mais ça sent moins mauvais. Il tient le coup. Tout cela dure un moment, puis ça s'arrange un peu. À force d'étudier tant qu'il peut, Émile est affecté à l'Institut chimique et là c'est plutôt mieux. Même s'il ne s'agit que de préparer de la cellulose dans un hangar glacial bourré de bonbonnes d'acide, Émile trouve ça beaucoup mieux. Certes, il préférerait, en laboratoire, participer à l'amélioration de la viscose ou au développement de la soie artificielle, mais il manifeste en attendant que ça lui plaît bien. Ça lui plaît tant que l'ingénieur en chef, content de lui, l'encourage à suivre les cours du soir de l'école supérieure. Une bonne petite carrière de chimiste tchèque se dessine lentement. Un seul problème à l'usine. Désireux de vendre toujours plus de leurs chaussures, qu'ils exportent dans le monde entier, ce qu'on peut comprendre, et non contents d'avoir poussé la rationalisation du travail aussi loin que possible, les établissements Bata veulent également faire connaître leur nom par tous les moyens et usent à cet effet de tous les supports publicitaires imaginables. Entre autres initiatives, ils ont engagé une équipe de football maison qui doit transporter les couleurs de la marque dans tous les stades. Émile est assez indifférent à cela, mais par malheur, ils organisent aussi, chaque année, une course à pied, nommée Parcours de Zlin, à laquelle doivent participer tous les étudiants de l'école professionnelle, accoutrés de maillots portant le sigle de la firme. Et ça, Émile déteste. Il a horreur du sport, de toute façon. Il traiterait presque avec mépris ses frères et ses copains qui emploient leur loisir à taper niaisement dans un ballon. Quand il l'oblige parfois à jouer, il participe à son corps défendant, ne sait pas s'y prendre, n'entend rien aux règles. Tout en feignant de s'intéresser, il regarde ailleurs en tâchant discrètement d'éviter le ballon dont il ne comprend jamais la trajectoire. Et si celui-ci lui arrive, par malheur, dans les jambes, Émile donne un grand coup de pied dedans pour s'en débarrasser, dans n'importe quelle direction, trop souvent celle des buts de sa propre équipe. Donc, le parcours de Zlin, Émile n'y trouve nul intérêt, n'y prend part que contraint et forcé, tente de sécher tant qu'il peut cette corvée, mais en vain. Il a beau feindre chaque fois de boitiller une heure avant le départ, arguant d'une cruelle blessure à la cheville ou au genou pour obtenir une dispense, il a beau grimacer et geindre énormément, les médecins ne sont jamais dupes. Il faut y aller ? Bon, il y va. Le sport, Émile aime d'autant moins que son père lui a transmis sa propre antipathie pour l'exercice physique, lequel n'est à ses yeux qu'une pure perte de temps et surtout d'argent. La course à pied, par exemple, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux dans le genre. Non seulement ça ne sert strictement à rien, fait observer le père d'Émile, mais ça entraîne en plus des ressemblages surnuméraires qui ne font qu'obérer le budget de la famille. Ce budget, père ouvrier en menuiserie, mère au foyer, cet enfant, pas un rond. Émile sait bien ce que c'est. Il est d'accord sur la question du sport avec son père qui, d'autre part, plutôt qu'il entre à l'usine, l'aurait mieux vu instituteur. Émile voulait bien passer l'examen, mais traditionnellement en Tchécoslovaquie, depuis le XVIIIe siècle, l'instituteur est un cantor, avant tout chargé de faire chanter les enfants, de leur faire écouter et connaître la musique. Or, Émile chante, hélas, comme une seringue, recalée d'office.
14h-15h sur Europe 1, la voix est libre.
Nicolas Caro.
Courir, donc, de Jean Echenoz, avec ce style si particulier, si musical. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, courez-y. Dans un instant, un peu de poésie avec le chanteur Kali. Nous allons visiter sa bibliothèque. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, la voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, c'est le moment d'aller visiter une bibliothèque, celle de Kali. Aujourd'hui, il vient de publier son nouvel album, Cavale, très beau titre. C'était l'occasion. Je savais qu'il aimait la poésie, mais alors, j'ai pas été déçu. Bonjour Kali.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Alors, je le dis aux auditeurs, c'est une exception aujourd'hui. D'habitude, je vais chez les gens pour pouvoir fouiller derrière les rayons de la bibliothèque et tomber sur des surprises. Mais il se trouve que Kali, vous habitez à Perpignan. Vous avez un petit pied-à-terre à Paris, mais que vous êtes en train de déménager, donc tout est en carton. Et j'avais très, très envie de, quand même de visiter votre bibliothèque d'une manière ou d'une autre, parce que ça fait plusieurs fois que je vous entends parler ici et là de littérature. Et je sais qu'on est copains là-dessus, parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. Alors, vous avez amené une douzaine de livres avec vous, et je ne suis pas déçu du tout. On va y venir, mais d'abord, je voudrais savoir quel est votre rapport à la littérature. Est-ce que vous êtes un gros lecteur ou un lecteur intense de certains auteurs ?
Ouais, je dirais, c'est bien ça. J'aime bien l'idée de, intense de certains auteurs. Il y a, disons qu'à partir du moment où, je trouve une source, un trésor, quoi, quelque part, je veux aller jusqu'au bout. Donc ça m'est arrivé. Il y a ma grande sœur Gina, qui est une grande, grande lectrice. Et elle m'a beaucoup complexé quand j'étais ado, parce que je la voyais lire tout le temps et moi, je lisais rien. Et un jour, je suis allé dans la bibliothèque de mon père, j'ai dit, je vais prendre 3 livres au hasard. Et il faut que je m'y mette comme il faut, quoi. Parce que, alors, je lisais, mais très, très, très peu. Et j'ai tiré, et puis il y a eu, est tombé, je me souviens, Le Pantalon d'Alain Scoff. La Métamorphose, Kafka, et Woman de Bukowski.
Vous n'avez pas tiré complètement au hasard non plus.
Ah, et c'était le hasard, vraiment. Et c'est ça qui est troublant, c'est que Bukowski, je me suis dit, waouh, là, il y a comme un grand frère où, qui m'adoube quelque part et qui me dit, enfin, qui me pousse vers l'avant et qui me dit, ça y est, t'es plus un enfant, tu vas devenir un homme. Et même, je regardais par-dessus mon épaule si les gens me surveillaient pas en train de lire ce truc-là, quoi. Et donc, après ça, j'ai lu tout Bukowski. Et comme Bukowski parle de Fante.
De Fante.
J'ai lu Fante et tout Fante. Et Fante, j'ai lu son fils. Le problème de son fils, c'est qu'il s'appelait, il est mort récemment, mais qu'il s'appelait, il s'appelait Fante, parce qu'on parle du papa, mais son fils c'était exceptionnel. Puis je suis tombé un petit peu sur cette littérature, la Beat Generation, et donc je suis allé vers Kerouac, et puis après ça m'a amené sur Brautigan. Et...
On va y aller doucement, parce que vous parlez de Bukowski. Effectivement, il y a beaucoup de livres américains dans ce que vous nous avez ramené, et Bukowski, donc Charles Bukowski, c'est un auteur donc américain, un auteur un peu... sulfureux, un peu transgressif. Tout le monde a cette image un peu décevante de lui chez Pivot quand il a un peu trop bu de vin. Et alors, si on le résume à ça, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est aussi un grand poète, un poète du quotidien, en fait. Là, vous avez ramené Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin en particulier de Bukowski ?
J'aurais pu ramener donc évidemment d'autres Bukowski, mais
Les Contes de la folie ordinaire.
Exactement. Mais j'aime bien le matin avant de sortir. Il y en a qui ont leurs petites habitudes. Moi, je prends un poème au hasard et j'ouvre ce livre. Alors, je peux ouvrir du Raymond Carver aussi beaucoup. Je suis très fan de Raymond Carver.
Vous en êtes ou pas ?
Des fois, ça, il m'arrive. Des fois, quand je suis foudroyé par une phrase, je la note parce qu'elle me fait du bien, quoi. Et la relire, c'est comme si quelqu'un me poussait dans le dos, quoi. Et tout le temps pour avancer. C'est les mots aujourd'hui, c'est les seules choses qu'on peut cajoler, qu'on peut on peut faire l'amour avec des mots, quoi. C'est les seules choses non interdites, on va dire aujourd'hui.
Et vous retenez par cœur ?
Parfois, ouais. Il y a un Brautigan, par exemple. Qu'est-ce que c'est bon de se réveiller le matin seul et ne pas avoir à dire
je t'aime à quelqu'un qu'on n'aime plus.
Ouais, à quelqu'un qu'on n'aime plus. Voilà. Ça m'a marqué, ouais. Je l'ai lu il y a longtemps et c'est resté, ouais.
Et vous avez fait un parallèle avec Richard Brautigan, qui est donc le dernier beat, donc dernier membre de la Beat Generation, qui est un peu oublié maintenant.
Alors, je sais pas.
Mais qui est retraduit en France et redécouvert depuis quelques années.
Ouais, il est redécouvert depuis quelques années, mais c'est sûr. Alors, en France, alors grâce à Mathias, beaucoup, Malzieux. Moi, je me souviens avec Mathias, on s'était retrouvés à lire des poésies comme ça de Brautigan il y a pas mal de temps. Et puis il y a d'autres, Nicolas Hulman, c'est des gens qui vont sur les réseaux lire du Brautigan. Il y a des pièces de théâtre qui se jouent de Brautigan.
C'est vrai qu'on le redécouvre, donc on le connaît assez peu encore, mais il y a une vraie communauté Brautigan. C'est-à-dire que quand on connaît Brautigan et qu'on rencontre quelqu'un qui connaît Brautigan, il y a tout de suite un lien qui se fait. Mathias Malzieux, il a préfacé toute la nouvelle traduction de Brautigan au Castor Astral. Et vous avez l'ancienne version de « Il pleut en amour ». Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ?
Il y a une pureté qui se dégage. Le premier livre que j'ai lu de Brautigan, c'était « La pêche à la truite en Amérique » avec « Sucre de pastèque ». Et dans ses poésies, dans ses mots, dans ses haïkus, il y a un enfant, quoi. Il y a un enfant partout caché. Je vois cet enfant et ça me rassure aujourd'hui avec tous nos faux alibis et nos mensonges et nos trahisons et tout ce qu'on porte, qu'on charge de défaite sur le dos. De lire quelque chose qui me ramène à la pureté, à l'enfance, le moment où on ne sait pas la mort et on ne sait pas justement la trahison. Donc c'est ça. Sucre de pastèque, je me souviens avoir bu ce texte avec pareil un soleil au-dessus de moi, un soleil doux, un soleil, il ne peut pas arriver grand-chose quoi, de mal. Voilà, c'est ce qu'il me donne lui. Alors il est mort tragiquement et c'est assez troublant pour moi parce que
il s'est suicidé
en octobre 84. Et j'ai découvert ça parce qu'en octobre 84, c'était mon premier concert que j'ai vu qui m'a donné envie d'être chanteur. Et c'était un concert de U2 au Palais des Sports de Toulouse. Et les dates correspondent, quoi, avec la mort de Brautigan. Je ne connaissais pas encore Brautigan. Et je me dis que cet octobre 84 est peut-être un moment décisif de ma vie, c'est sûr.
Est-ce que vous pourriez nous lire ce poème qui s'appelle « Il pleut en amour » et qui donne le titre au recueil de poèmes et qui est assez magnifique et qui est un des plus connus de Brautigan ? C'est un peu long, mais il faut prendre le temps. «
Il pleut en amour ». Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne me fais pas confiance. Quand je commence à beaucoup aimer une fille, ça me rend nerveux. Je ne dis pas ce qu'il faut, ou alors peut-être que je commence à examiner, évaluer, calculer ce que je suis en train de dire. Si je dis « Tu crois qu'il va pleuvoir ?» et qu'elle me dit « Je ne sais pas », je me mets à gamberger. Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi ? Autrement dit, ça me fiche un peu la trouille. Un de mes amis m'a dit une fois, c'est 20 fois mieux de faire copain-copain avec quelqu'un plutôt que d'en tomber amoureux. Il a raison, à mon avis. Et à côté de ça, il pleut quelque part. Ça fabrique des fleurs et ça rend les escargots heureux. Tout ça, c'est déjà réglé.
Mais...
Si une fille m'aime bien et commence à ne plus être du tout dans son assiette et se met à me poser de drôles de questions et prend son air triste si je lui réponds mal et me dit des trucs du style « Tu crois qu'il va pleuvoir ?» Et je dis « Je n'en sais rien. » Et elle dit « Oh !» et prend son petit air triste pour regarder le ciel bleu, clair de Californie. Je pense « Dieu merci, c'est toi ma chérie. Cette fois-ci, c'est ton tour. »
C'est quand même... C'est magnifique, quoi. Ça résume pas mal d'histoires d'amour.
Ah ouais. Bah, c'est un concentré pur de on peut écrire 1000 romans ou alors écrire un poème comme celui-ci, ouais.
Et alors, ce sont des poèmes qui ne sont pas en vers, ce sont des poèmes en prose.
Ouais.
Comment on définit la poésie? C'est une question un peu compliquée, mais ça pourrait être une petite nouvelle, finalement, ça.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui se dégage pour qu'on puisse dire que c'est un poème plutôt qu'une nouvelle?
Oh, je vois la poésie dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est une éclaircie, quoi. C'est pour moi, c'est ma définition. C'est-à-dire qu'on vit avec la poésie tout autour. Et parfois, il y a des chiens fous qui l'attrapent et qui en font quelque chose, quoi. Qui attrapent des mots et qui en font quelque chose qui rend compte un petit peu... c'est du temps gagné sur la vie, ouais, sur l'absurdité de cette vie, encore une fois. C'est défier la mort, vraiment. Je travaille actuellement avec un poète qui s'appelle Poindron. Eric Poindron, et il m'a poussé à écrire à balancer des choses comme ça. J'ai dit, mais tu sais, moi, je m'amuse à prendre comme ça des mots, parfois, qui ne deviennent pas des chansons, mais des humeurs, juste des humeurs pour. Et je les perds, elles sont éparpillées, quelque part chez moi ou ailleurs. Il me dit, c'est merveilleux, ça, on va l'appeler Cali éparpillé. Et il va sortir mon livre de poésie. Alors je l'appelle de la poésie. Est-ce que c'est prétentieux? Je crois pas. Justement, je pense que c'est courageux, peut-être.
Mais moi, il y a un truc qui me fascine quand même. Peut-être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas la réponse, je vous la pose, cette question. Comment se fait-il que la poésie, justement, passe aujourd'hui pour un truc un peu snob, un truc un peu élitiste, alors qu'il n'y a rien de plus populaire et de plus simple et de plus immédiat que la poésie, notamment celle de Brautigan?
Ouais, ben. C'est, je pense que c'est juste le titre, peut-être, poésie, le mot poésie. Je me suis amusé dernièrement à regarder dans la petite école de ma fille, des enfants qui avaient sous-titré, qui avaient des dessins. Et dans leurs mots, ça parlait de flaques d'eau, ça parlait de pluie, ça parlait de soleil, ça parlait de rire. Et je me suis dit, mais c'est du Brautigan, quoi. C'est chacun de ces... C'est des vrais poèmes, comme ça. Je crois que c'est... Ouais, est-ce que c'est snob d'ouvrir les yeux? Je sais pas, non.
Alors, je vais parler un tout petit peu de moi, mais ma fille de 4 ans m'a fait du Brautigan la semaine dernière. Je sors avec elle dans la rue, il y avait du vent, son chapeau s'envole, et elle me dit « Papa, le vent, il nous vole. »
Oh là là.
C'est du pur Brautigan, on est d'accord.
Brautigan, c'est merveilleux. Ouais, moi mais pareil, la petite, il y avait un sapin de Noël au conservatoire où on pouvait mettre les vœux de chacun. Et les enfants accrochaient « Je voudrais qu'il n'y ait plus de guerre, je voudrais que les gens ne soient plus malades, je voudrais... » Et je suis allé espionner ma petite fille, quoi. Et elle avait marqué « Papa Noël, je voudrais que tu m'amènes... » plein de cadeaux. Et j'ai tourné le mot, il y avait marqué derrière. Sinon, je dis à tout le monde que tu n'existes pas.
C'est magnifique. En plus, elle le cache et tout, mais ouais. Elle sait que ça va lui parvenir quand même, ouais, quoi, que ça va le faire un peu flipper. Ouais. Vous avez aussi amené la biographie d'un immense chanteur, Born to Run, de Bruce Springsteen. Pourquoi? C'est un peu étonnant, tiens.
Non, bah, pour moi, c'est le boss, évidemment. Mais au-delà de ça, je me suis toujours dit que cette biographie, elle est merveilleuse parce qu'il creuse au fond de lui-même. Il ose parler de ses dépressions, de ses sales côtés obscurs, de ses joies, de tout ça. Mais je me suis toujours dit que si un extraterrestre arrivait sur Terre et voulait découvrir l'âme de l'être humain, qu'est-ce que c'est l'être humain, il n'a qu'à lire Born to Run de Bruce Springsteen. Et tout est là. L'être humain est là.
Merci beaucoup, Cali.
Merci.
Merci pour cette visite.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Cali, donc, merci à lui, c'était un très beau moment. Son nouvel album s'intitule Caval, je le rappelle. Dans un instant, direction les librairies pour flâner un peu dans les rayons. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, la voie est libre.
Allez, il est l'heure de pousser la porte des librairies. Aujourd'hui, deux libraires, Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure, c'est à Paris, et Jérémy Banel à Paris aussi. la librairie Lamartine. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Et alors là, exceptionnel, on a un libraire physiquement dans le studio, Christophe Daniel, merci d'être venu, ça fait plaisir de vous revoir.
Eh ben, ça fait plaisir d'être ici.
Et merci Jérémy quand même d'être connecté, d'être quand même là avec nous. Merci beaucoup, ça fait une belle transition. La prochaine fois, les deux seront en studio. On commence avec vous, Christophe Daniel, avec un roman.
Oui, avec un roman qui est une réédition d'un auteur qui s'appelle John O'Hara. Le titre du livre, c'est « L'enfer commence avec elle ». Ça paraît aux éditions de l'Olivier.
Et déjà,
Déjà, on est en pays de confiance, en terrain de confiance. Et John O'Hara, les éditions de l'Olivier avaient déjà réédité il y a 2 ans à peu près son roman le plus célèbre, Rendez-vous à Samara. Donc là, c'est L'enfer commence avec elle. On est à New York en 1931 et on va suivre les pas d'une jeune femme de 22 ans qui s'appelle Gloria Wandross. Gloria Wandross, c'est une flappeur. Les flappeurs, vous les avez sans doute croisés dans les récits de Dorothy Parker ou de Scott Fitzgerald. C'est ces jeunes femmes avec une coupe de cheveux très courte, coiffées au carré, personnalisées au cinéma par Louise Brooks, Clara Bow, des jeunes femmes comme ça.
C'est comme ça que les filles se déguisent quand il y a une soirée année folle, quoi.
Hein, voilà, exactement, voilà. C'est ça. Sauf que là, on est au cœur de cette époque des flappers. Et donc Gloria est une femme belle, indépendante, à la sexualité totalement libre et assumée. On est à l'âge du jazz et on est aussi à la période de la prohibition. Donc il y a des bars clandestins, les fameux speakeasies qui pullulent dans la ville de New York. Et on va suivre Gloria qui passe d'amant en amant en buvant des cocktails à n'en plus finir. Un sacré foie et une sacrée descente, Gloria. La dernière aventure en date, sa dernière aventure, c'est avec un homme marié, père de famille, Weston Liggett. Et Weston Liggett est prêt à tout abandonner pour vivre avec elle. Va se poser pour elle la tentation de se ranger un peu, d'avoir une vie plus stable et mettre un terme à sa vie amoureuse erratique.
Et voilà. Et la suite, il faut la lire.
Ouais, c'est une comédie de mœurs et c'est un roman noir à la fois. Et c'est une écriture cinématographique. C'est vraiment un magnifique portrait de femme et un magnifique portrait de New York à cette époque.
Aux éditions de l'Olivier, on ne peut pas se tromper. L'enfer commence avec elle. Merci beaucoup, Christophe. Jérémy Banel, une autre légende.
Ouais, une autre légende. Une légende du roman policier français ou du néo-polar, comme on a pu dire. Il s'agit de Jean-Patrick Manchette. Dont les éditions de La Table Ronde ont eu l'excellente idée de publier cette semaine les correspondances, ce qui n'avait jamais été fait. Donc c'est plus de 200 lettres inédites qui courent de la période de 1977 à 1995, parce que c'est le moment où il a archivé méthodiquement son courrier. Mmh. Et donc on découvre à travers ces lettres, il y a vraiment de tout. Il y a des lettres avec ses amis auteurs. On va y croiser Schnoz, on va y croiser Donald Westlake, on va y croiser Elroy, dont on sait qu'il a aidé à le faire connaître, en France du moins, pardon, avec les auteurs, avec les éditeurs. Il y a des parties d'échecs, il y a des courriers quand il essaie de faire traduire des livres, il y a des lettres plus amicales, il y a des lettres politiques, tout y est. On retrouve vraiment tout ce qui fait le charme du personnage, de ses romans et de sa qualité d'écriture. Dans un format assez original, il est mordant quand il faut l'être. Il a des analyses qui sont incroyables sur un nombre de sujets particulièrement variés à rendre jaloux, je pense à peu près n'importe qui. Il a aussi des formules amicales qui sont magnifiques. Honnêtement, c'est la lecture d'une correspondance qui donne envie soi-même presque de se remettre à envoyer des lettres comme on le faisait, simplement pour les belles formules.
C'est souvent le cas quand on lit des correspondances, ouais.
C'est souvent le cas, oui. Et c'est peut-être aussi qu'on savait plus souvent bien tourner les formules. Oui. Là, entre autres, voilà, il a des formules de politesse à la fin pour ses amis, par exemple, qui sont magnifiques.
Et,
Oui, par exemple, ce courrier à Enki Bilal, donc l'auteur de bande dessinée. Ouais. Ils ont formé un peu le projet d'avoir un travail en commun. Et Manchette, comme il est très précis, très exigeant, il envoie une longue lettre pour lui expliquer les points forts, les points faibles, ce qui peut sembler un peu cassant ou exigeant. Mmh. Et il termine en disant... Veuillez, cher Bilal, considérer ce tissu d'ânerie comme une proposition bien réelle, issue de la haute estime que j'ai pour vos travaux, et bien entendu, les miens, bien cordialement, Jean-Patrick Manchette. Ouais. Et je trouve que là, il y a un petit peu tout.
Ça, c'est une formule de politesse. Magnifique.
Voilà, c'est ça. Qui dit quand même qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais qu'on vous aime bien, mais qu'il faut faire gaffe.
Rappelez-nous le titre de ces correspondances.
Le titre, c'est « Lettres du mauvais temps, 1977-1995 ». Et j'ajoute en une demi-phrase qu'il publie également un livre qui s'appelle « Play It Again Dupont », qui est le recueil de ses chroniques ludiques, donc de jeux, parus dans Metal Hurlant entre 78 et 80. Et c'est plus une niche, mais c'est formidable aussi.
Super manchette, donc. Et puis, Christophe Daniel, c'était « L'enfer commence avec elle » aux éditions de l'Olivier. Et je rappelle qu'on retrouve tous ses livres dans la librairie La 25e Heure à Paris ou à la librairie Lamartine, pas très loin. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Au revoir.
Dans un instant, on part pour le rayon jeunesse rejoindre ce grand enfant de Victor Bonnet.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez un album intitulé « Papa » de Serge Marquis.
Oui, c'est un très bel album sur un sujet difficile, le deuil. Un livre pour répondre à la question que beaucoup d'enfants peuvent se poser un jour. Il est où papa? Ou toute autre personne disparue? Et l'auteur, Serge Marquis, répond simplement « Il est dans l'amour ». Et c'est donc tout le cheminement d'un petit garçon qui aimerait avoir des réponses claires. Pas question d'entendre des explications ou des images approximatives. Il veut qu'on soit honnête avec lui.
Mais j'imagine que quand on lui dit « Il est dans l'amour », c'est pas suffisant pour lui.
Non, et c'est pour ça qu'il pose beaucoup, beaucoup de questions. Ça fuse dans tous les sens. Écoutez cet extrait lu par Léon.
Bien sûr, si j'avais 5 ans, je ne pourrais pas en rester là. Je reviendrai à la charge et demanderai « C'est où l'amour? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin d'ici ?» Et à nouveau, je souhaiterais une réponse honnête. Quelque chose comme « Non, non mon grand, ce n'est pas loin l'amour, pas loin du tout. Alors c'est où? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Si on était vraiment honnête avec moi, on me répondrait « Il faut que tu trouves par toi-même d'abord le chemin, puis le lieu. » Alors si j'avais 5 ans, je prendrais la main de la personne qui me parle et lui dirais « Aide-moi s'il te plaît à trouver le chemin et le lieu. »
Avec beaucoup de poésie, l'auteur dissèque les mots, OTS, et les mots, AUX, donnent des clés pour que les enfants se repèrent dans cette période délicate. Serge Marquis parle de deuil, cet endroit où l'on va quand on perd quelqu'un, situé juste à côté de l'amour. Il évoque aussi l'héritage, ses cadeaux, ses gestes, ses mots, cette main serrée, ses souvenirs gravés dans le corps, le cœur ou la tête, sans oublier l'âme, ce qu'on a de plus beau en nous, selon l'auteur.
Question rituelle, Victor, à partir de quel âge peut-on lire cet album?
Vous pouvez le lire à vos enfants à partir de 5 ans, qu'ils aient ou non perdu un être proche, pas besoin de les inquiéter, simplement leur parler de la mort, mais sous l'angle de l'amour, de la tendresse, des émotions. C'est vraiment un très bel album, simple et réconfortant. Saluons également les superbes illustrations de Gilles Rapaport, des cœurs géants dans lesquels l'enfant entre et sort, le petit garçon qui lutte contre ses tempêtes intérieures, avec toujours un cœur au fond de l'image, d'un trait rond presque malicieux, il souligne avec beaucoup de pudeur les mots de l'auteur.
Et on rappelle le titre « Papa » de Serge Marquis et Gilles Rapaport. C'était aux éditions La Martinière Jeunesse. Merci Victor.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, à Xavier Joly pour la programmation musicale pertinente, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, à la semaine prochaine pour d'autres livres.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.